cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 16 mars 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Le cours de critique. La pauvre critique, elle reste souvent un peu à la remorque. Et quand les tournants sont trop dangereux, on laisse la remorque de côté. Pourtant, c'est très important de faire une vraie critique, c'est très important. Pour saint Thomas, à la suite d'Aristote, seule la sagesse peut se critiquer. Et critiquer les autres. Une science ne se critique pas. Il faut dépasser la science pour la critique. Et c'est ça, c'est très important. Enfin, au point de vue philosophique, par exemple, la critique vient en dernier lieu. Et en philosophie, la critique, elle doit être tout le temps présente. Le philosophe doit pouvoir tout le temps, quand il affirme quelque chose, montrer le chemin qu'on a pris. Et montrer que le jugement d'existence est toujours en acte. La théologie doit pouvoir tout le temps se critiquer. Et le jugement de foi doit toujours là être présent. La critique, c'est cette lucidité que nous devons avoir sur tout ce domaine de la pensée. Et comprendre que la critique n'est jamais première. Oui, le grand danger, c'est de mettre la critique première. Ça, c'est le grand danger. Et aujourd'hui, quand on parle justement d'une théologie herméneutique, c'est mettre la critique avant, en premier lieu, parce que l'herméneutique, l'interprétation, c'est un jugement critique qu'on doit avoir sur telle affirmation. Pourquoi j'affirme ça? Pourquoi je dis cela? J'essaie de voir. Alors on prend les divers arguments, vous prenez en théologie, vous prenez argument d'autorité. Ceci, c'est dans l'Évangile. Jésus l'a dit. Et l'a dit de cette façon-là. En philosophie, c'est l'expérience. L'expérience est là qui me montre que je suis obligé de dire ça. Je vois par exemple, pour la substance, je vois deux absolus. Je vois l'absolu du singulier. Je suis bien obligé de reconnaître que le singulier existe indépendamment de moi. Et puis, que mon intelligence est arrivée à affirmer certaines choses. L'homme, par exemple, il y a Pierre et homme, et deux absolus, un absolu du côté existentiel, un absolu du côté de la pensée. Alors nous allons voir tout de suite, c'est vraiment en critique ça, quel est l'objet propre de la critique dans la recherche philosophique. Alors l'objet propre de la critique, c'est de voir si ce que j'affirme peut rejoindre le réel. Et c'est ce réel qui sert de mesure à la vérité de ce que j'affirme. Pour qu'il y ait la critique, il faut qu'il y ait une référence à quelque chose d'absolu. S'il n'y a pas cette référence à quelque chose d'absolu, je ne peux pas critiquer. Si mon intelligence est incapable d'atteindre l'être, la réalité, ce qui est, je ne peux pas critiquer, je peux simplement considérer si ce que j'affirme est en conformité, en harmonie avec tout le reste de ce que j'affirme. Alors je suis moi-même mesure de ce que j'affirme, de ce que j'ai affirmé. Alors je tombe dans le système. Un système cohérent et juste. Non, est vrai. Un système cohérent n'est pas nécessairement vrai. Si tout le système est faux, c'est pas le tout qui donne une référence de vérité à chaque partie. C'est quelque chose qui est au-delà du tout, qui est le point de départ que j'attends. Et c'est ça qui est le propre à la critique, c'est de voir si ce que j'affirme, ce que je te connais, est conforme à la réalité. Si ce que j'affirme n'est pas conforme à la réalité, ce que j'affirme, qu'est-ce qu'il a comme valeur de vérité? C'est qu'il est conforme à ce que j'ai dit avant. Ou conforme à ce que tel philosophe a dit avant. Une vérité qui s'appuie sur Aristote, qui s'appuie sur Platon, qui s'appuie sur Sénèque, qui s'appuie sur tel ou tel. Bon, c'est une vérité historique. C'est intéressant comme vérité, c'est sûr, c'est partiel, mais ça reste partiel. Parce que... Vous voyez, donc la critique présuppose la connaissance. Elle n'est jamais première. Je ne peux pas critiquer le crapaud. Si vous mettez le critiquer, il vous regarde et vous dit « je suis crapaud ». Et puis c'est tout. Et vous pouvez dire que vous ne l'aimez pas. Ah, ça c'est très juste, vous ne l'aimez pas. Cette petite bête, vous ne l'aimez pas, vous ne la caressez pas tous les matins. Il faut dire ça, mais ça c'est la bonté, c'est l'amour. Elle ne fait pas partie des avis. Elle ne fait pas partie des aimes de votre zoo. C'est différent ça. Mais on ne critique pas le réel. Le réel est incritiquable. Pourquoi le critiquer ? Vous ne critiquez pas quelqu'un qui mesure plus que la taille habituelle des hommes. Incritiquable. Ou petit, en dessous de la taille normale. Quelle est la taille normale? Alors il faut être, vous voyez, il faut être Le Corbusier pour inventer une nouvelle mesure. Pour tout mesurer à partir d'un homme normal. Et ce que disait, avec beaucoup de sang-froid, un moine qui était chartreux, quand il faisait visiter la chartreuse à des visiteurs, et qu'on voyait le lit du chartreux, et la question posée, mais quand on est plus grand que ce lit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il a répondu, on lui coupe les pieds. Là, vous comprenez très bien ce que c'est. C'était là le point de vue artistique, qui venait mesure de l'homme. C'était pas bête hein, comme réflexion. Alors, le point de vue artistique n'est jamais mesure de l'homme. L'art est pour l'homme, et non pas l'homme pour l'art. La La science est pour l'homme et non pas l'homme pour la science. Je respecte le réel, il est incritiquable. Quelle est la place de la critique dans la philosophie réaliste? Elle est aussi étendue que la philosophie réaliste. Comme extension, la critique est aussi étendue, comme profondeur, elle présuppose la connaissance de la philosophie réaliste, donc elle est toujours seconde. Mais au point de vue de l'extension, toute ma philosophie peut être critiquée, parce que toute ma philosophie est pensée. La philosophie n'existe que dans mon intelligence, hein, ma philosophie. Et donc, elle est pensée. Et tout ce qui est pensé est critiquable. Il n'y a que la pensée de Dieu qui n'est pas critiquable, parce qu'elle est la réalité. Pourquoi la critique est-elle essentielle à la métaphysique? Elle est essentielle à la métaphysique parce que, à cause de l'abstraction, je transforme le réel en le connaissant. Le réel reste intact. Hein. Quand je dis à quelqu'un « je vous connais », ce n'est pas parce que je connais quelqu'un que cette personne est changée. Non. Heureusement, du reste. Il n'y a que la connaissance de Dieu qui est mesure de la réalité. Tandis que ce n'est pas ma connaissance qui est mesure de la réalité, c'est la réalité qui est mesure de ma connaissance. Et comme ma pensée n'est pas la sensation, il y a un passage de la pensée, il y a un passage de la connaissance sensible à la pensée. À quel moment, hein, toujours une question que je pose aux psychanalystes, ils veulent tout connaître. Alors, je leur dis, dites-moi à quel moment l'enfant qui disait « papa » arrive à dire « homme ». Tous les hommes ne sont pas papa. C'est un passage très important, ça. Il est arrivé à passer. Toutes les femmes ne sont pas maman. On arrive à discerner papa singulier. Il a une barbe, papa. Bon. Si papa a une barbe, pourquoi les hommes n'ont pas tous une barbe? C'est les questions de l'enfance, hein. Parce que papa est la mesure. Si j'ai commencé à connaître ça, donc tous les hommes doivent avoir une barbe. Non, petit à petit, j'arrive à distinguer que la barbe n'est pas essentielle à l'homme. On la coupe. Et on arrive à discerner papa et homme. Donc il y a un passage extrêmement important du singulier à l'universel. C'est que ma connaissance scientifique est universelle. Ma connaissance philosophique est universelle. Ce sont deux universaux différents. L'universel univoque et l'universel analogique. Mais tous les deux, c'est un domaine nouveau. Le point de vue universel, intentionnel. Ah. Dès que je pense, je crée un univers nouveau, l'univers de l'intentionnalité. Si je ne crée pas cet univers nouveau d'intentionnalité, je n'aurai pas besoin de la critique. Mais j'ai besoin de la critique parce que je crée cet univers intentionnel, homme, animal, raisonnable. toutes les sciences sont basées sur l'universel. Toutes les sciences. S'il n'y avait pas d'universel, il n'y aurait que des descriptions. Je décrirai chaque individu. Et j'essaierai de saisir la note différente de chaque individu. C'est ce que fait l'artiste. L'artiste ne fait que décrire. Vous voyez, la critique existe à partir de la naissance de l'intentionnalité. Il y a le monde existant et le monde de l'intentionnalité. Et dans l'intentionnalité, je distingue l'intentionnalité affective. J'aime cette personne. L'intentionnalité scientifique, l'intentionnalité philosophique, l'intentionnalité pratique. De ma prudence, il faut faire cela, il faut faire cela. L'intentionnalité donc artistique, prudentielle. C'est tous ces domaines d'intentionnalité qui sont divers. Quand vous voulez acheter une carotte, si vous êtes un petit peu compétent, vous allez vraiment acheter une bonne carotte. Si vous êtes incompétent, on vous fera de mauvaises carottes et vous en apercevrez à la cuisson. Et on dira, d'où as-tu pris ces carottes ? Ils sont infâmes. La même chose pour les pommes de terre. Et le marchand, quand il voit qu'il a quelqu'un d'incompétent, fait passer tout ce qui est mauvais. Quand il a envers quelqu'un de compétent, un bon client compétent, ah, vous verrez, il n'y a rien de mieux que ça. Et c'est vrai. Donc il y a un domaine de l'intentionnalité dans lequel le monde vit de plus en plus. On a de plus en plus un monde artificiel. Je voyais quelqu'un qui vit dans l'espace nucléaire. On vit dans un monde artificiel, constamment. Internet, on vit dans un monde artificiel et on vous fait croire que ce monde artificiel, c'est le monde réel. Par le cinéma, vous vivez dans un monde artificiel. C'est sûr, c'est pas le réel. Et au bout d'un certain temps, vous croyez que ce monde artificiel, c'est le monde réel. La propagande crée un monde artificiel. Et quand on connaît le maniement de ce monde artificiel, vous vous laissez prendre. Propagande affirmative ou négative. On crée un nouveau monde qui est un monde de l'homme. Qui est fait par l'homme. Alors, la critique est de comprendre est-ce que ce monde artificiel est réel ? Est-ce que ce monde artificiel rejoint la réalité ? Et comment elle la rejoint ? Par où elle la rejoint ? C'est donc essentiel, vous voyez, à ma vie. Quand vous lisez un bouquin, vous vous demandez si c'est un roman, oh, c'est de l'imagination. Vous vous demandez si c'est historique. La différence entre l'imagination et l'histoire. S'il y a des documents, et après l'interprétation de ces documents, L'historien interprète toujours, puisque le document est dans telle bibliothèque, et l'historien écrit son bouquin. Et il a tout interprété, et ordinairement il critique ceux qui ont écrit avant lui. Il les critique parce qu'il a lu ce document dans telle perspective, qui n'est pas la sienne et qui n'est pas réelle. Et lui pense qu'il est plus réel et que sa critique est meilleure. Tous les grands événements historiques, quand ils ont écrit pour en être l'histoire, sont tout à fait différents. La révolution d'un pays est écrite différemment par la droite et par la gauche. Et ça peut être totalement différent. Et quand on vit ces événements, ils sont toujours interprétés par la droite ou par la gauche, par un ami ou par un ennemi. La critique est donc essayer de voir ce qu'il y a d'objectif dans ce monde intentionnel, ce qu'il y a de réel dans ce monde intentionnel. Donc vous voyez, la critique naît parce qu'il y a abstraction. C'est à cause de l'abstraction que la critique naît et que la critique doit exister. Pourquoi la critique est-elle essentielle à la métaphysique ? La métaphysique n'est pas un roman. Le roman de ma vie, c'est la métaphysique. Alors, est-ce que c'est un roman ou pas ? C'est pas un roman si ce que je dis en métaphysique rejoint le réel. Si ça ne rejoint pas le réel, que c'est purement imaginatif, je ne comprends ma métaphysique que lorsqu'il y a un beau temps, un rayon de soleil, tout s'illumine. Quand il fait grisâtre, je n'y comprends plus rien. Alors, y a-t-il une part imaginative dans la critique, dans votre métaphysique ? Quelle est la part imaginative ? C'est pas un mal qu'il peut y avoir un peu d'imagination. S'il n'y avait aucune imagination critique, j'arriverai pas à vous l'enseigner. Je sais bien qu'il y a de l'imagination, mais je suis conscient de l'imagination. L'imagination pour transmettre. Quand on donne des exemples, c'est toujours un peu imaginatif. Même quand on n'est pas de Marseille, c'est toujours un peu imaginatif. Alors quand c'est de Marseille, la carotte, c'est le navet. Alors, vous voyez, on brûle les cartes, exprès, du reste. Un bon Marseillais, c'est très bien, c'est pour le public. Y a-t-il un rapport entre la critique et la conscience ? Quel est ce rapport ? Alors, la conscience, c'est j'ai conscience que je connais. J'ai conscience que je passe du sensible papa à homme. Et je ne sais pas à quel moment j'ai fait ce passage. Et quand vous posez cette question à des psychanalystes, ils sont très ennuyés. C'est quand même un passage extrêmement important. C'est au moment où vous commencez à connaître l'universel que l'imagination qui ne veut jamais être en retard s'empare de cet universel. L'imagination ne s'empare pas du réel. Mais l'universel, il se défend difficilement, vous savez. C'est très curieux, ça. Alors, y a-t-il un rapport entre la conscience et la critique ? C'est sûr. Si je n'avais pas conscience, je n'aurais pas la critique. Donc, vous voyez, pour que la critique existe, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'existence d'un autre monde que le monde réel. Je critique en fonction du monde réel. Et je montre que je quitte ce monde réel quand j'invente, je crée un nouveau monde. Je l'invente quand j'imagine. Tout le monde des images est intentionnel. C'est l'intentionnel de l'imagination. Il y a l'intentionnel de l'imagination, il y a l'intentionnel du savant, du mathématicien, il y a l'intentionnel du philosophe, il y a l'intentionnel du théologien, il y a l'intentionnel du mystique, puisqu'il y a la sagesse mystique. Vous portez tous ces intentionnels. Et quelle est la référence ? C'est le réel philosophique, le réel chrétien. Le réel chrétien, c'est la référence au Christ. Le réel philosophique, c'est la référence à la réalité existante. Et je réfère à cela. Donc, pour qu'il y ait critique, il faut qu'il y ait conscience d'un monde particulier qui est intentionnel. Alors, prenez l'intentionnalité très simple de l'universel. Parce que je crois que tous, nous avons conscience que nous sommes passés de papa à homme. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Est-ce que ça a lieu à 4 ans ? L'âge de la négation, paraît-il. 4 ans, c'est l'âge de la négation. L'enfant commence à nier. Et la première fois que l'enfant a nié, il s'est reposé sur l'intentionnalité et non plus le réel. Vous niez quand, justement, il y a un autre monde qui, pour vous, n'est pas ce qu'est la réalité. Alors vous vous reposez sur ce monde-là. Vous avez une autre référence. C'est plus la référence de la réalité, c'est la référence à autre chose. À votre intentionnalité. Et si votre affectivité est très grande, vous vous référez à votre affectivité qui vous sert de réel. Et c'est comme ça que vous pouvez vivre de façon très particulière. Vous aimez beaucoup quelqu'un de façon très profonde, pas un amour spirituel, mais un amour passionnel, affectif. Vous avez l'affectivité, l'intentionnalité de la passion. Et vous voyez tout à travers cette affectivité. Alors, votre ami qui est source de cette affectivité est intouchable. parce qu'il est votre référence. Il est intouchable. Et vous jugez les autres en fonction de lui. Donc, vous n'êtes plus dans le réel. Vous êtes dans votre affectivité. Et on dira tout simplement, vous êtes dans votre bulle. Vous restez dans votre affectivité. Combien de personnes restent dans leur affectivité et n'arrivent pas à saisir le réel et restent dans leur affectivité. Constamment, les querelles dites personnelles sont des querelles affectives. Constamment. On ne cherche pas la vérité. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement utile cette recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est la recherche de la réalité. Et juger tout en fonction de cette réalité. La réalité, c'est quoi? C'est l'homme que je connais. Et c'est le Christ, si je suis chrétien. C'est pas l'Église, c'est le Christ. Le Christ, l'Église est encore saisie d'une façon intentionnelle. L'existence de l'Église, elle est réelle, mais elle est intentionnelle. C'est pas le Christ, c'est l'Église. C'est pas la même chose. Et certaines personnes bloquent l'Église et le Christ. On fait ça très facilement. Pour être un bon chrétien, on est en référence avec l'Église. Mais l'Église, c'est qui? C'est le Saint-Père ou est-ce que c'est les commissions romaines? L'intentionnalité n'est pas la même. Hein. Et au fond, vous voyez, la critique, la conscience que j'ai, plus j'ai conscience de ma connaissance, plus la critique peut être pénétrante. Et plus ma critique peut être juste. En référence au réel. En référence à l'homme réel. Donc, quel est le rapport entre la critique et la conscience? Je dirais, pour que la critique existe, il faut que j'ai la conscience. C'est sûr. C'est la connaissance. La connaissance que j'ai de cette réalité. Que j'en ai conscience. Continue l'autre bout. Parce que ici, c'était un saint carême. C'est la signature. La signature est saint carême. Alors, vous voyez, il finit par l'intentionnalité. Et c'est très bien. On a pas besoin de signer. Quand on pose des questions, on se cache derrière le monde intentionnel. Donc c'est pas une critique que je fais. C'est simplement pour saisir exactement. Le carême a parlé. Le saint carême. Quelle est la différence entre la cuidité et l'universel? L'universel est dans mon intelligence. Et la cuidité est dans la réalité. La cuidité fonde l'universel. La cuidité de l'homme permet de saisir l'homme. Cet animal raisonnable, universel, l'homme. L'universel est un être de raison. Alors, vous voyez, c'est très curieux. Toute la logique repose sur l'universel. Une bonne critique philosophique, c'est d'étudier l'universel. Toute la critique repose sur l'universel. Alors, deux regards différents. En logique, vous étudiez les relations de l'universel. L'universel se définit unum ex multis, unum in multa, unum ad multa, ex in ad. L'univers est une relation de raison. L'universel n'existe pas dans la réalité. Il existe en mon esprit. Et toute science repose sur l'universel. Si l'universel n'existait pas, il n'y aurait pas de science. On pourrait décrire. Il pourrait y avoir un art. Mais il n'y aurait pas de science. Donc, toute la logique repose sur l'universel. On voit toutes les relations. Unum ad. Unum ex. Unum in. C'est ça l'universel. L'universel homme. Homme provient de Pierre, Jacques et Jean. Ex. L'homme existe en Pierre, Jacques et Jean. In. Et ad. L'universel est pour connaître Jacques et Jean, ad. Ça, il faut le savoir et comprendre ce que ça veut dire. Hein. Quand on dit que l'universel, c'est l'un. Vous ne pouvez pas rester dans le multiple. Et vous avez l'un. Homme. Alors, l'un avec relation ex, l'origine, relation in dans la réalité, relation ad. Ça, c'est saint Thomas qui dit ça, c'est pas Aristote. C'est très joli. Il y a une relation ad, universelle, un, homme, un. Ex, Pierre, Jacques et Jean, ce sont des hommes. In, en Pierre, en Jacques, Jean. Ad, pour connaître Pierre, Jacques et Jean. Alors vous vous servez de cet un qui vient de l'esprit. Vous avez deux systèmes d'abstraction en vous. Vous n'y avez jamais pensé, hein, que vous aviez en vous une dualité. Votre intelligence, c'est vrai, vous restez très souvent à l'un univoque. Genre et différence spécifique. C'est fondamental, ça. Genre et différence spécifique. Et vous ai mis de rester dans le genre parce qu'il est très indéterminé. Et quand le genre est indéterminé, l'imagination s'en donne à cœur joie. Mais vous pouvez avoir un universel qualitatif, analogique. Quand Aristote dit « l'être se dit de multiples façons ». Alors, vous êtes en face d'un universel l'être. Le concept d'être. Se dit de multiples façons. Parce que vous dites homme, vache, ange. C'est quand même assez différent. Tout ça, c'est l'être. Tout ça, c'est le bien. Tout ça, c'est le vrai. Vous êtes en face d'un universel analogique. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'intentionnalité universelle univoque et l'universel analogique? On n'a jamais un universel univoque pur. L'universel analogique est toujours présent, même dans l'universel univoque, mais il est étouffé par l'universel univoque. Donc, l'universel univoque, c'est l'universel générique. C'est le plus univoque, celui-là. Animal. Et vous aimez de l'aimer quand vous dites espèce d'animal. La grande injure que vous pouvez faire à quelqu'un. Espèce d'animal. Et vous dire espèce d'animal pour tous les hommes, pour toutes les vaches, pour tous les crapauds. Donc quand vous dites espèce d'animal, vous pourriez dire espèce de crapaud, espèce de vache. C'est la suprême injure, hein, espèce d'animal. L'universel univoque. L'universel univoque, c'est l'universel dont la signification reste toujours la même. Animal. C'est un être qui a une vie biologique. Animal. Et la différence spécifique rationnel vient de l'extérieur. Elle n'est pas contenue dans le genre. Elle vient de l'extérieur. Et elle peut être encore ou essentielle ou accidentelle. Alors, vous avez l'universel différent spécifique essentiel, homme, différent spécifique, accidentel, capable de rire, différent spécifique, accidentel, cet homme a des cheveux roux, David. Cet homme est tout petit. Cet homme est très grand. Cet homme pèse 100 kilos. Cet homme est maigre comme tout. Il ne pèse pas plus que 50 kilos. Vous voyez, vous dites ça couramment. Bon, vous pouvez réfléchir au point de vue critique, de voir que l'intentionnalité, elle est générique, différents spécifiques, espèce, propriété, accident. Vous avez cinq modalités de l'universel univoque. Si vous avez cinq modalités d'universel, vous pouvez dire que l'universel se distingue selon cinq modalités. Donc, il y a une certaine analogie. C'est toujours l'universel. Et c'est très différent. L'universel univoque genre, l'universel spécifique. L'un est maternel, il enveloppe tout, le genre. L'autre, précise, distingue, différence spécifique. Donc vous voyez, l'universel pur, la pure univocité n'existe jamais. Il y a toujours une distinction, même à l'intérieur de cet universel. L'universel analogique, c'est celui dont la diversité est impliquée dans sa raison, dans sa signification. L'universel analogique, c'est l'être. Quand vous pensez être, quand vous avez le concept d'être, vous avez un concept analogique, parce que vous distinguez l'être substantiel, l'être essentiel, accidentel. Tout de suite, et dans l'accident, vous distinguez la qualité, la quantité, la relation, l'action, la passion, le lieu, vous distinguez les dix prédicaments à l'intérieur de l'être. L'être a dix déterminations. Les dix prédicaments. Et c'est toujours l'être. Mais c'est l'être sujet, c'est l'être relatif, c'est l'être passion, c'est l'être action. Dix prédicaments. Dix déterminations à l'intérieur même de l'être. Vous voyez, l'être analogique, l'universel analogique, c'est l'universel qui se diversifie par lui-même et n'a pas besoin d'un autre pour se diversifier. Il se diversifie par lui-même. C'est pour ça qu'on dit que l'être se dit de multiples façons. Alors, puisque vous avez deux universels, vous avez donc deux abstractions différentes. Une abstraction qui conduit à l'univocité. Alors saint Thomas l'appelle l'abstraction universelle, la plus commune. Et l'autre abstraction, elle est qualitative. Elle est formelle. Elle se fait grâce au jugement. Tandis que la première se fait directement, sans jugement. Tandis que la diversité de l'être analogique implique toujours un jugement. Autrement dit, il y en a une qui est instinctive. Quand vous passez de papa à homme, c'est instinctif. Vous n'avez pas conscience de ça. Tandis que l'universel analogique, il est conscient. Et c'est pour ça que la diversité des sciences c'est la diversité analogique dans la diversité. Puisque il y a diverses sciences, et chaque science saisit un aspect de la réalité. Vous saisissez dans la réalité son aspect quantitatif. Vous saisissez dans la réalité son aspect qualitatif. Vous saisissez dans la réalité la communication, la relation. Vous saisissez dans la réalité son énergie, sa qualité active. Vous saisissez dans la réalité sa réalité passive. Il peut supporter ça. Mais c'est un universel qualitatif dont vous avez conscience de regarder cela. Vous avez conscience de faire des mathématiques. Et quand vous faites des mathématiques, vous ne faites pas de la philosophie. Quelle différence y a-t-il ? C'est que l'intentionnalité mathématique n'est pas la même intentionnalité que la métaphysique. Parce que l'abstraction mathématique n'est pas la même que l'abstraction philosophique. Vous comprenez ? Il y a un universel qui est le même pour tout. C'est pour ça qu'il est maternel. Il est le même pour tout. Tout le monde arrive à cette connaissance universelle. La langue exprime ça. Tandis que l'universel qualitatif, analogique, est différent. J'en ai conscience. J'ai conscience de faire des mathématiques. J'ai conscience de faire des sciences biologiques. J'ai conscience de faire du droit. J'ai conscience de faire de la philosophie. Alors, il y a à ce moment-là le jugement qui, lui, implique justement une conscience, je juge, je discerne. On discerne qu'on saisit telle qualité, telle quantité, tel aspect de la réalité. Et j'ai conscience de saisir cette réalité en tant qu'elle existe. C'est la philosophie. Le jugement d'existence est présent à toutes les parties de la philosophie. J'ai conscience que c'est l'être tel qu'il existe dont je parle. Et cet être tel qu'il existe dont je parle, c'est en réalité l'homme. Le philosophe existe pour parler de l'homme. Je sais, pour parler du domaine de la quantité, les sciences quantitatives, physiques, sont beaucoup plus précises, mais ne saisissent pas l'être existant. L'abstraction mathématique met entre parenthèses l'existé et ne regarde que la relation. Comme la relation peut être réelle ou être de raison. En mathématiques, il y a toujours un fondement dans la réalité, mais je suis capable de m'évader de la réalité et de rester dans le champ mathématique. C'est le champ de la relation. Tandis qu'en philosophie, je ne m'échappe jamais du réel par le jugement d'existence. Vous voyez, c'est le jugement alors que l'universel, c'est l'appréhension. L'universel comme universel, c'est l'appréhension. Je reste dans cette appréhension, dans le jugement, dans l'universel, unum ex multis, unum in multa, qui ad multa. Mais le jugement intervient pour voir mes diverses abstractions formelles, celle du matheux, celle de la science physique, de la science biologique, celle de la philosophie. Mais ça, c'est vraiment la critique qui me permet de distinguer les diverses lignes d'intentionnalité qui proviennent de moi. Alors, je pourrais me poser ensuite, parmi toutes ces sciences, lesquelles demeureront éternellement. Est-ce que les mathématiques demeureront éternellement? Est-ce que la science biologique demeurera éternellement? Est-ce que la métaphysique demeurera éternellement? C'est intéressant de se poser le problème. Dans la gloire, serez-vous mathématicien? Serez-vous physicien? Serez-vous biologiste? Dans la gloire, serez-vous philosophe? Je vous laisse y réfléchir. Parce que si je dis tout de suite la chose, vous ne réfléchirez plus. Et c'est vous qui, de même, en tant que croyant, en tant que la sagesse théologique peut savoir ce que sera la gloire. Quel est le patrimoine du Père? Le Père me donnera son patrimoine pour l'éternité. Alors, est-ce que Dieu fait des mathématiques? Est-ce que le Père est mathématicien? Est-ce que le Fils est mathématicien? Est-ce que l'Esprit Saint est mathématicien? Est-ce que le Père est philosophe? Est-ce que le Fils est philosophe? Et en Dieu la sagesse. Ah, la philosophie, en tant que sapientiale, rejoint Dieu.